tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
La Cité présente la deuxième édition de la Biennale des Écritures du Réel du 13 mars au 12 avril à Marseille. Théâtre, littérature, cinéma, musique, exposition, conférences, 5 semaines d'un parcours atypique qui fait dialoguer démarches artistiques et scientifiques, professionnelles et amateurs, scènes et salles, questions de société et création pour voir le monde avec les yeux des autres. Et rendez-vous sur Radio Grenouille chaque dimanche à 18h pour des émissions spéciales autour de la Biennale des Écritures du Réel. Programme complet sur www.maisondetheatre.com.
Dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel, aujourd'hui nous diffusons Pélos, un documentaire radiophonique de Frédéric Paulet-Rouillère. Frédéric Paulet-Rouillère était invité le samedi 15 mars dans le cadre de la Biennale des Écritures du Réel et a donné à entendre et à voir une installation sonore qui avait pour titre « Détour, paroles des habitants du quartier nord de Marseille ». Ce documentaire a été présenté pour la première fois dans l'émission Sur les docks, sur France Culture et sur la RTBF en juin 2013. Bonjour Frédéric Paulet-Rouillère, est-ce que vous pouvez nous présenter ce son et nous dire d'où est venue cette idée de faire ce documentaire ?
Il y a environ 2 ans, un peu par hasard, je lis la presse un matin et je tombe sur une brève qui indique que en Espagne, les femmes viennent vendre leurs cheveux auprès donc d'une grande entreprise d'import-export de cheveux, qui est la plus grande entreprise sur le plan mondial, espérant retirer un peu d'argent qui leur permettrait de faire face à un peu mieux à la crise. Et donc quand je lis cette brève-là, tout de suite je pense au personnage de Victor Hugo dans Les Misérables, qui est Fantine, qui en raison et de sa condition féminine et de sa misère d'origine, son origine sociale en fait, pour affronter les difficultés, abandonnée par un homme, elle commence par vendre ses cheveux, puis ses dents, puis elle tout entière, puisqu'elle se prostitue pour tenter de se nourrir elle-même et nourrir sa petite Cosette. Donc j'ai eu envie de partir en Espagne pour rencontrer en fait en quelque sorte les Fantines du monde occidental d'aujourd'hui, quoi.
Donc ce programme radiophonique est un programme qui propose une visibilité sur la condition des femmes aujourd'hui en Espagne.
Alors en Espagne, mais finalement c'est pas propre à l'Espagne, parce que la prostitution, évidemment, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Espagne. Mais le point de départ géographique, c'est l'Espagne, effectivement, et l'ensemble du documentaire se passe en Espagne. C'est-à-dire que l'ensemble des rencontres se font en gros à Madrid, hein, parce que je voulais suivre un peu ce fil conducteur-là, et puis que la crise en Europe, elle s'est vraiment déclenchée en Espagne et qu'elle a des conséquences dramatiques qu'on sait en particulier en Espagne, même si ça vient en France et que c'est en train de fragiliser l'ensemble des pays européens, notamment du Sud. Mais évidemment, la condition des femmes, elle ne se pose pas qu'en Espagne.
Mais pour votre documentaire, en tout cas, ça se passe en Espagne.
Ouais, ça se passe en Espagne, effectivement. Mais le fait de faire appel à Hugo et donc de filer en fait tout au long de faire résonner en fait tout au long du documentaire les propos que Hugo a tenus au travers des Misérables et même autrement au-delà sur la condition féminine, sur l'hérédité de la misère, aussi la reproduction de la condition sociale des personnes, etc. L'idée c'était effectivement de donner une résonance un peu plus universelle en fait, hein, à cette question-là.
Alors justement, vous parlez de la condition sociale des femmes plus particulièrement. Qui sont ces femmes que vous avez rencontrées dans ce documentaire pour le créer ?
Alors l'idée c'était de suivre un peu la métaphore du cheveu, c'est-à-dire que le cheveu ça devient un peu le fil conducteur entre toutes ces femmes. Donc c'est un peu en même temps une sorte de prétexte un peu littéraire ou quasi littéraire pour aller à la rencontre effectivement de différentes femmes que j'ai pu rencontrer au travers de mes investigations dans l'industrie du cheveu. Donc je vais à la rencontre en fait d'ouvrières du cheveu, de femmes qui achètent des extensions, qui se les font poser, de coiffeuses qui posent les extensions elles-mêmes, et puis voilà, c'est un peu comme un portrait un peu transversal comme ça de d'une Espagne au travers des femmes de conditions, on va dire, relativement modestes de l'Espagne d'aujourd'hui, et jusqu'à effectivement rencontrer une femme prostituée. Il y a une migrante aussi avant, je rencontre une femme migrante aussi qui a dû vendre ses cheveux pour payer ses études, ou en tout cas tenter de manger à sa faim pendant qu'elle poursuivait ses études, et puis une femme prostituée qui elle-même aussi a été amenée à vendre ses cheveux et qui dit d'ailleurs qu'elle a dû les couper à ras comme dans Les Misérables. Voilà, donc c'est essentiellement les femmes que je rencontre, c'est des femmes ouvrières, des femmes migrantes et une femme prostituée qu'on rencontre un petit peu comme ça par miracle, mais finalement tout ça est très cohérent. Hein.
Est-ce que pour vous, vous pouvez nous dire un mot sur l'importance de ce sujet pour vous, de l'avoir traité? Est-ce que c'est un combat, un engagement de votre part? Vous avez voulu apporter une parole sur ce sujet?
Ben, j'ai un engagement féministe, certain. Je suis militante féministe. Et donc effectivement, j'ai été frappée lorsque j'ai lu cette brève par la manière dont la société d'aujourd'hui, comme la société d'hier, sollicite et éprouve le corps des femmes, notamment en temps de crise, et qui plus est en temps de crise. Et donc comment... parce qu'il ne viendrait pas tellement à l'idée d'un homme de vendre ses cheveux, hein, de même qu'il ne viendrait pas tellement à l'idée, en tout cas il y a beaucoup moins d'hommes qui sont prostituées, il y a très peu d'hommes qui sont clients de prostituées, il n'y en a pas d'ailleurs en gros, et donc l'idée c'était aussi de mener une réflexion autour de la manière dont le corps des femmes est constamment, très souvent violenté, physiquement ou symboliquement, encore dans la société d'aujourd'hui, quoi, occidentale.
Pelos, un documentaire radiophonique de Frédéric Paulet-Rouillère.
C'était le 15 mai 2011. Le mouvement des indignés soulevait dans l'Espagne en crise l'espoir d'un changement possible, d'une révolution pacifique qui replacerait l'être humain au cœur du politique. Un an plus tard, alors que je parcours la presse en quête des nouvelles du pays, mon attention est attirée par une brève. Espagne, crise oblige, les femmes vendent leurs cheveux dans l'espoir de boucler leur fin de mois. Les lignes suivantes racontent que dans la banlieue de Madrid, l'entreprise d'import-export Rustino Delgado accueille de plus en plus de personnes désireuses de vendre leurs cheveux. Désireuse, crise oblige, espoir, drôle de mélange. Vendre ses cheveux pour boucler ses fins de mois. La crise frappe les femmes jusque dans l'intimité des corps.
Les beaux cheveux, les longs cheveux que voilà. Les beaux cheveux que tu as.
Soudain, le triste souvenir de Fantine remonte parmi les misérables. Les images d'un vieux film reviennent. Fantine qui se vend en pièces détachées, les cheveux, puis les dents, puis tout entière. L'émeute de 1832 et ses barricades sur lesquelles les indignés s'élevaient déjà contre l'injustice, celle-là même qui toujours contraint les femmes à sacrifier des parts d'elles-mêmes.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui? À la misère, à la faim, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux. La misère offre. La société accepte.
J'arrive à Madrid en septembre, à la recherche des Fantines de l'Espagne d'aujourd'hui. Bien qu'il ne se passe pas ici un jour sans manifestation, la Plaza del Sol a retrouvé son allure de centre commercial et touristique. À la place des revendications du 15 mai, retentissent maintenant les cris des acheteurs d'or et des vendeurs de chance. Sur le côté, un immense panneau publicitaire vantant une marque de lingerie barre le ciel comme un horizon. On y voit une femme allongée, quasi nue, aux formes retouchées, arborant une impressionnante chevelure blonde. On lui a demandé de sourire, c'est plus présentable. L'arrivée de mon amie Sarah, qui sera aussi mon interprète, me tire de ma sidération et nous filons vers la banlieue de Madrid où se trouve l'entreprise Rustino Delgado. Rustino Delgado, sa fille et son fils nous accueillent dans la salle principale de l'usine qui abrite des milliers de tonnes de cheveux, triés par origine et par couleur.
Bien, vous êtes ici dans l'entreprise Justino Delgado. Justino Delgado a débuté il y a 50 ans. On ne fait pas que vendre des cheveux, on les travaille aussi, on les prépare, on les arrange pour servir à faire des perruques et des extensions. Nous vendons beaucoup de cheveux pour les extensions, et pas seulement en Espagne, mais dans le monde entier.
Sí, trabajamos solamente lo que es cabello natural, cabello de persona. Es una persona que se corta el cabello.
Oui, uniquement des cheveux naturels, des cheveux humains. Une personne qui se coupe les cheveux, on les achète et nous sommes les premiers comme importateurs et exportateurs au niveau mondial. Tout le monde connaît Justino Delgado, c'est une référence.
Là où il
y a des cheveux, il y a Justino Delgado, ça c'est sûr.
Et luego, l'autre jour, j'avais un ami.
J'avais un ami qui est mort maintenant et qui un jour m'a dit ces mots. Je te donne une affaire. Il faut travailler beaucoup. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. Le 1er avril 1964, à 4 heures de l'après-midi, j'ai commencé à acheter des cheveux, et ça jusqu'à maintenant.
C'est comme ça qu'a commencé Justino. Il allait de village en village pour acheter les cheveux aux femmes qui en avaient et qui les vendaient pour manger, parce qu'à l'époque, on souffrait de la faim.
Mais l'Espagne était pauvre.
Ma devise est, là où on souffre de la faim, il y a des cheveux à vendre. C'est ce que tu as toujours dit. Et c'est ce que tu as toujours dit.
Oui, mais...
Entrez.
Je veux 40 francs, le reste n'a pas d'importance.
On peut peut-être s'arranger. Je fais des perruques aussi. Vous avez de très beaux cheveux.
Vous les voulez ? Pour 40 francs, vous les voulez ?
Hola.
Hola.
Buenos días. Venía a informarme de la posibilidad de...
Bonjour. Je viens pour savoir s'il serait possible d'évaluer mes cheveux.
Est-ce que tu les as déjà teints?
Ça m'est arrivé. Mes cheveux ont plusieurs tons, mais c'est plutôt dû au soleil qu'aux teintures.
Oui, mais tu les as teints. Ça fait comme des mèches. Toute cette partie a déjà été teinte. Et les cheveux teints ne conviennent pas. On ne peut pas les travailler.
Tengas aquí, no creo que llegue a los 100 gramos, eh. Tiene que ser menos, aunque tienes mucho, pero vamos a suponer que tuvieras.
Je ne crois pas qu'il y ait pour 100 grammes. Il y a moins. Mais supposons qu'il y ait 100 grammes. Tu pourrais en retirer au mieux entre 30 et 60 euros. Mais il faut voir le poids, hein, ça dépend du poids.
C'est rien. Hein.
Nous avons ici des cheveux qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, ces quatre tresses naturelles, on ne les trouve nulle part ailleurs. On en vend beaucoup pour la télévision. Des commandes pour des films de cheveux très longs. Voilà ce qu'on fait.
Oui, les cheveux de Penélope Cruz dans Le Pirate des Caraïbes sortent aussi d'ici. Par exemple, pour le musée de cire, les cheveux de la reine, de la princesse et des artistes sortent aussi d'ici.
20 couleurs différentes. Ça, c'est le travail que je fais. On a du travail par-dessus la tête. Aujourd'hui, un Italien, demain, un Allemand, une autre fois, un Américain. Ça n'arrête pas. Ici, il n'y a pas de crise. Je t'assure qu'ici, il n'y a pas de crise. Et ça me remplit de fierté. Je suis né dans un village de la province de Segovia, le village le plus pauvre qu'il soit. Mais aujourd'hui, il me respecte. Venez voir. Venez, venez. C'est une surprise.
Voilà. Bajar. Este es el
ça,
recuerdo que me queda de.
C'est le souvenir que je garde des cheveux.
El Ferrari Testarossa. que también fue cambiado a cuentapelo.
Échangé contre des cheveux. Je n'ai pas payé un sou. Je l'ai acheté à un fabricant de perruques italien. J'ai livré les cheveux en fourgonnette et je suis reparti avec une Ferrari. Et je crois, oui, je crois que je suis quelqu'un.
Ce jour-là, aucune autre femme n'est passée chez Delgado pour vendre ses cheveux. Sarah me propose de passer une annonce dans Seconde Main. C'est un journal très populaire sur le net. Vous souffrez de la crise ? Avez-vous déjà pensé à vendre vos cheveux ? Nous recherchons des témoignages. Très vite, Sonia, une jeune femme de 26 ans, nous répond. Elle nous donne rendez-vous dans un salon de coiffure où elle sait pouvoir vendre ses cheveux.
Hola. Hola, buenas tardes.
Je suis venue pour savoir combien vous donnez pour les cheveux et combien ça coûte de les faire couper.
Pour les couper, disons 10 euros. Ça va ?
Très bien.
Et viens par ici.
Merci.
À part les cheveux que vous coupez, si on vous en amène déjà coupés, vous les achetez aussi ou ?
Oui.
Parce que j'ai quelques tresses à la maison. J'ai appelé parce que j'ai besoin d'argent. Je suis au chômage depuis le mois de juin de l'année dernière. Je ne toucherai plus rien à partir du mois d'août et je n'aurai plus rien. J'ai passé des entretiens pour être commercial. Le problème, c'est qu'ils t'offrent un fixe minimum, 49-50 euros par contrat. Mais si tu ne rapportes rien, tu n'as rien de plus. J'ai aussi passé des entretiens dans des boutiques, mais bien que j'ai beaucoup d'expérience, partout, ils te demandent un corps parfait, un visage parfait et bon. Moi, je n'ai pas le profil. J'espère que ça ira mieux pour ma fille que pour moi.
Alors que Sonia se fait couper les cheveux, une employée africaine s'affaire autour d'une jeune fille. Pour 400 euros, Christina a opté pour de très longues extensions de cheveux naturels, blond platine. Une épaisse frange masque son front comme un casque. On dirait une image. Pourquoi tu te fais poser des extensions ? Qu'est-ce que ça change pour toi ?
La vida, porque sin pelo yo no me veo. Yo me puse
tout, hein. Parce que je ne me vois pas sans cheveux. Hein. Je me suis fait teindre en blonde et j'ai cramé mes cheveux. Un jour brune, un autre jour rousse, j'ai toujours teint mes cheveux. Et donc les extensions, bah, c'est une solution. Hein. Mais avoir une chevelure bien soignée, il n'y a pas mieux. Ouais, ça me rend nerveuse.
Et qu'est-ce que tu fais en ce moment ?
Bah, je suis au chômage. Ce qui me plairait, un peu tout. Je suis en train de chercher et je prendrai ce qu'on me propose. Ce qui me plairait, c'est la coiffure, les boutiques de vêtements. Je suis dépendante de ça aussi.
La coupe de Sonia terminée, la patronne l'invite à passer à la caisse.
Voilà, ça fait 55 grammes. 450 euros le kilo, ça va ?
Oui.
Ça fait un total de 24,55 euros. Je dois te tirer le prix de la coupe.
Ah, c'est vrai.
Je te prends seulement 4,75 euros pour qu'il te reste quelque chose. Sinon,
très bien. Merci beaucoup.
De rien. Merci à toi.
Après le départ de Sonia, je retrouve Christina dans le fond du salon. Entre-temps, deux jeunes hommes se sont installés pour faire rafraîchir le dessin de leurs cheveux coupés ras. Une conversation s'engage. Pourquoi préfères-tu les femmes aux cheveux longs ?
C'est plus féminin, plus attirant, je sais pas.
Ah, et surtout s'ils sont frisés, parce que ça me plaît. Ça attire plus mon attention.
Ici en Espagne, les hommes préfèrent les femmes avec des cheveux longs. Quand elles ont les cheveux longs, elles attirent plus l'attention.
Bah, d'ailleurs, les mannequins ont toutes les cheveux longs.
Ben, c'est clair.
Regarde-moi, mes cheveux. Ça plaît beaucoup à mon mari. Il aime beaucoup ma chevelure.
Ah, ça te change. Hein. Incroyable.
Tu es plus attirant.
Bah, mec, je suis plus attirant et avec les cheveux courts. Et avec les cheveux courts.
Tu es tout d'un monsieur. Un homme est un homme avec les cheveux courts.
Le matin, un peu d'eau sur la figure et t'es prêt à sortir. Si tu dois faire un masque, passer du gel dans tes cheveux, te coiffer les sourcils...
Est-ce qu'il y a un problème?
Il y a des choses qui ne sont que pour les hommes et pas pour les femmes. Travaille comme maçon sur un chantier avec une pique et une pelle. Si elle est en soutien-gorge et qu'un sein lâche...
Ça ne te pèse pas trop?
Le premier jour, c'est sûr que ça pèse lourd hein, quand tu les laves. Parce que ce n'est pas tes cheveux, alors... Mais c'est bien, tu t'arranges pour être belle.
Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle se sent plus en sécurité, c'est clair. Et quand tu rentres à la maison, ton mari te dit... Waouh, qu'est-ce que tu as fait? Il t'embrasse.
Je connais bien ça.
Quand tu rentres et que tu es jolie, lui, il se sent plus... Tu sais,
excité.
Claire, il regarde sa femme et il est plus motivé. Et si elle est bien coiffée et qu'elle veut sortir, il lui demande où elle va. Mais si elle a les cheveux n'importe comment, il lui dit « casse-toi ».
Il faut souffrir pour être belle, hein, comme on dit.
Nous achèterons de bien belles choses en nous promenant le long des faubourgs. Les bleuets sont bleus, les roses sont roses. Les bleuets sont bleus, j'aime mes amours. Les bleuets sont bleus, les roses sont roses. Les bleuets sont bleus, j'aime mes amours.
En quittant le salon, nous prenons le bus pour traverser la ville. De mur en mur, je recense les publicités qui s'adressent aux femmes. Cosmétiques, lingerie, démêlants, teintures, crème d'épilation, extensions. La belle affaire que la beauté des femmes. D'un côté, des femmes bradent leurs cheveux pour survivre. De l'autre, des femmes doivent les acheter à prix d'or pour réparer les dommages des teintures et faire alissage. Souffrir pour être belle. Serait-ce le prix à payer des femmes? À qui? Aux hommes qu'il faut exciter. Aux faiseurs d'images qui nous résument à cela. Aux investisseurs qui en font commerce. Marché douloureux que la société accepte. Le bus nous laisse Plaza del Sol, d'où l'on perçoit les bruits d'une manifestation. Les bruits nous guident quelques rues plus loin vers une centaine de femmes et d'hommes en blouse blanche, brandissant des pancartes devant l'entrée d'un hôpital public. Nous descendons tous les jours avec les pancartes. C'est la seule manière que nous avons pour qu'ils nous écoutent, parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils font ce qui leur importe et ils se fichent totalement de l'opinion des citoyens.
Pour la santé publique, l'objectif, c'est la santé du patient. C'est l'unique objectif. Alors que dans le secteur privé, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. C'est une différence essentielle. Et à la base de tous les problèmes.
La privatisation sería horrorosa, horrorosa.
La privatisation,
para todo el mundo.
Ce serait l'horreur. Pour tout le monde.
Ils ne pensent pas aux conséquences. Ils ne pensent qu'à récolter de l'argent facile, sans se préoccuper du coût.
La santé, ce n'est pas du business. Ça concerne la vie des personnes. La politique doit être au service de la vie. Elle ne doit pas négocier avec ça.
Tu salud no es un negocio.
Pública, sanidad.
Elle avait les yeux brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle cousait 17 heures par jour, et un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Que voulait-on d'elle, mon Dieu ? Elle se sentait traquée. Et se développait en elle quelque chose de la bête farouche.
Plus loin, dans l'ombre du commerce des cheveux, des petites mains s'affairent à la confection de perruques et d'extensions. Des corps malmenés qui, bientôt peut-être, n'auront plus accès aux soins et qui ont déjà appris à faire sans. Main-d'œuvre sous-payée que l'on abandonnera après usage, comme la vieille machine à coudre remisée au fond de l'atelier au travail Maria.
Je travaille dans un atelier de fabrication de perruques de tout type de cheveux. Des extensions, des moustaches, des barbes. Tout ce qu'on nous demande de faire en cheveux. On a même fait des vêtements en cheveux. Beaucoup de perruques se font à la main. C'est une espèce de filet, très fin, et très doux, avec des trous microscopiques et avec des crochets minuscules. On doit coudre cheveux par cheveux. Je les compte pour ne pas m'ennuyer. On porte toutes des lunettes, ma vue a baissé après le premier mois de travail ici. Je ne vois rien de près. Je travaille tordu, en tenant avec cette main tout en tirant avec l'autre. Donc maintenant, j'ai une douleur musculaire dans le bras, horrible, dans les bras, le cou, le dos, j'ai très mal, j'ai une hernie discale, mais bon, des anti-inflammatoires, et voilà. Et quand j'ai des vertiges, pour ne pas manquer le travail, parce que sur cette machine, je suis seule, donc je ne peux pas manquer. Même quand je suis malade, je prends un calmant, et voilà.
Je tombe un analgésico, lo que sea, y ya está. Yo cobro.
Moi, je gagne le salaire de base.
Yo muy poco.
Très peu. 630 et quelques. Par mois. Quelquefois, je me sens mal et je pense que ça pourrait aller mieux. Mais je dois être reconnaissante d'avoir du travail. C'est ce qui nous permet de vivre, moi et mon fils. Je ne demande pas plus. Je ne sors pas en discothèque parce que je ne peux pas me le permettre, mais au moins, mon fils ne manque de rien. Comment je fais ? Comme mon mari ne me donne rien, même pas pour les vêtements ou les chaussures, mes parents m'aident. Tous les jours, nous mangeons chez eux. Voilà. Je vis ainsi. On fait comme on peut. Hein.
La crise me préoccupe bastante.
La crise m'inquiète beaucoup parce que les choses sont de plus en plus difficiles, surtout pour les classes inférieures. Il y a de plus en plus de chômage. Des gens qui travaillent depuis des années sont mis à la porte. C'est ce qui m'effraie le plus. Parce que si maintenant c'est dur, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera un plan de sauvetage.
Horrible.
Si ça continue comme ça, je vais devoir retourner vivre chez mes parents. Ça me rend malade. Ils sont contre nous. Sans pitié. Ils veulent couper des têtes. Mais ils coupent les têtes des pauvres. Et pas un haut responsable ou un politique.
Pero es que ahora ya va a llegar un punto que yo es que veo...
Mais gente, je vois qu'on est en train d'arriver au point où des gens ont faim.
Me da mucha pena.
Ça me fait beaucoup de peine.
Para que unos vivan muy bien.
Porque certains vivent très bien. Plus ils en ont et plus ils en veulent. Et plus ils dépensent. Ils dépensent plus qu'ils n'en ont. La famille royale, par exemple.
Autre.
Quelle nécessité avait Urdangarin et sa femme, l'infante Cristina, de faire ce qu'ils ont fait ? Qu'ils rendent l'argent ? Et tous les politiques qui ont pris l'argent pour le mettre dans les paradis fiscaux, qu'on les oblige à le rendre ? S'ils voulaient, ils pourraient.
De quoi se compose l'émeute ? De rien et de tout. D'une électricité dégagée peu à peu, d'une flamme subitement jaillie, d'une force qui erre, d'un souffle qui passe. Ce souffle rencontre des êtres qui parlent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des passions qui brûlent, des misères qui hurlent, et les emporte.
Plus de 1300 agents de police ont converti le Congrès en une forteresse avec un déploiement de plus de 20 véhicules et des barrages dans chacune des rues qui mènent à cette zone et avec un périmètre de sécurité de 200 mètres qui pourrait être élargi en fonction des événements.
Et actuellement, les manifestants se sont réunis en deux assemblées dans le centre de Madrid et à 5 heures de l'après-midi, ils commenceront à marcher vers le Congrès jusqu'au cordon policier qui l'entoure.
Quelle émotion ! C'est impressionnant ! Je voudrais dire... que nous n'avons pas peur. Ce sont à eux d'avoir peur. Et pas parce que nous sommes violents ou que nous troublons l'ordre, mais parce que nous avons raison. Et c'est pour cela qu'il y a tant de gens aujourd'hui. C'est un jour historique. Nous ferons tout notre possible aujourd'hui pour que notre voix, calme, juste, pacifique, soit entendu jusqu'à la Chambre des députés. La dignité est dans la rue. Merci.
L'émeute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas. Elle éprouve l'armée, elle concentre la bourgeoisie, elle étire les muscles de la police.
D'ici un quart d'heure, toutes les issues sont occupées.
C'est bien. Mais dites-moi, vous assurez vous-même la fermeture des grilles et vous les ferez garder.
Bien, monsieur le préfet, soyez tranquille. Ils tomberont entre nos mains ou ils crèveront comme des rats.
Je suis venue à la manifestation parce que je crois que c'est la seule manière de sortir de la crise. Pour défendre l'école publique, la santé publique, tous les acquis sociaux pour qu'une société soit juste.
Je suis venue car je crois que c'est la seule manière de continuer à être un pays. Car sinon, on va finir par être ce que les banques veulent qu'on soit, c'est-à-dire une bande d'esclaves.
Nous devons être là parce que c'est la seule manière de protester contre un gouvernement qui demande toujours plus aux classes populaires et qui, à aucun moment, ne pense à réduire les privilèges des classes privilégiées.
Pour Luisa Fernanda, l'Espagne, c'était l'Eldorado. Luisa Fernanda était architecte en Bolivie. Elle a tout quitté après une rupture sentimentale.
Voilà ma chambre qui donne sur la façade. Plus ou moins 10 mètres carrés. Une grande fenêtre avec vue. Un lit simple, un bureau, une petite bibliothèque, une armoire, une table et trois chaises. S'il y a plus de monde, elles vont sur le lit. Mon rêve était de vivre à Barcelone. L'Europe moderne, le rêve des hispanophones, c'est d'être en Europe. Mon principal objectif en restant à Madrid, loin de mon pays et de ma famille, c'est de passer mon doctorat.
Claro, lo que logro en dinero, limpiando casas, arreglando abuelitos, no sé qué, no sé cuánto, pues lo que
tout l'argent que je gagne en faisant des ménages ou en m'occupant de personnes âgées sert à payer l'université.
Entonces, luego no te alcanza para comer, no te alcanza.
J'ai pas assez pour manger ou pour me loger.
Prefiero esperarme en la universidad en el lapso entre 3 y 4 y la persona que deje comida, pues me siento yo en el plato.
Donc je préfère aller à l'université entre 3 et 4 heures et terminer les restes que les gens ont laissés dans leur assiette. Je me souviens une fois d'un groupe d'étudiants à la Polytechnique. Un garçon s'est plaint du casse-croûte que lui avait préparé sa mère. Il a un goût de merde, il disait. J'étais là et comme j'ai vu qu'il l'a jeté après une seule bouchée, je suis allée le ramasser et je l'ai mangé.
Me daría vergüenza contarlo si a lo mejor no hubiera luchado, ¿sí?
J'aurais honte de le raconter si je ne m'étais pas battue ou si j'avais pris quelque chose à quelqu'un.
Pero tú tienes que sobrevivir.
Il faut survivre d'une manière ou d'une autre si l'on veut vivre.
Ahí está.
Il n'y a rien de mal là-dedans.
Te enfermas las neuronas.
Il faut manger, sinon tu tombes malade. Mes neurones, mon sang, je vais m'évanouir. Je suis seule dans ce pays.
Entre ese tiempo de enero y junio me roban el ordenador.
Dans cette période, entre janvier et juin, on m'a volé mon ordinateur. Bon, grâce à mon réseau sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un qui me prêtait un ordinateur à Bilbao.
Para poder ir por el ordenador hay que pagar un pasaje, 200 euros o algo así. Entonces,
mais bon, je devais aller le chercher là-bas et j'avais pas les 200 euros que coûtait le billet. Alors, j'ai vu sur Internet une annonce qui offrait 100 euros en échange de cheveux naturels jamais teints et d'une longueur de plus de 30 cm. J'ai appelé et j'ai vendu mes cheveux. La fille qui m'a coupé les cheveux avait les cheveux très longs jusqu'à la ceinture. Je lui ai dit qu'elle avait des cheveux très jolis et je lui ai demandé combien de temps ça faisait qu'elle les laissait pousser. Elle m'a dit pas du tout que c'était des extensions.
Se llama Ana.
Elle s'appelait Ana.
Yo nunca dije que
je n'ai pas dit que je vendais mes cheveux parce que c'est ce que m'avait dit l'homme qui me les achetait. Ne dis rien, dis que tu veux changer de look.
Quand la chica me cortó la coleta y ya me vi esos cortes así un poco amorfos de frente al espejo, dije, Dios mío.
Quand la fille m'a coupé la queue de cheval et que j'ai vu toutes ces mèches un peu amorphes dans le miroir, je me suis demandé comment j'allais finir. Où j'en étais arrivée pour devoir vendre ce que j'aimais le plus.
Lo que más me he cuidado no soy de maquillarme ni nada de estas cosas ni.
Toute ma vie, j'avais soigné mes cheveux. Je ne me maquille pas ni rien. Je ne suis pas du tout vaniteuse, mais j'ai toujours soigné mes cheveux. J'avais des très jolis cheveux. Tu peux voir sur les photos.
En el centro comercial, yo sentía que me miraban y que pensaban que yo había cambiado de identidad. Yo no sé si estas personas que hacen.
Dans le centre commercial, j'avais l'impression qu'on me regardait comme si j'avais changé d'identité, comme ces gens qui font quelque chose de mal et qui se font pousser la barbe ou qui changent leur visage pour échapper à la police.
Me sentía que no.
J'avais l'impression qu'on me regardait comme ça. Je sentais comme si c'était pas moi.
Alguna vez bromeé con una cosa que en Colombia decía, yo decía.
Une fois, quand j'étais en Colombie, j'ai dit pour rire que si en Europe les choses tournaient réellement mal, je vendrais un poumon.
Pero lo dije por broma y alguien me dijo, Luisa, eso no lo hables. Pero lo dije por pura broma.
J'ai dit ça pour rire.
Cuando vendí mi pelo.
Et quand j'ai vendu mes cheveux, je me suis dit.
Decía, ¿cómo será el que
qu'est-ce que ça
poumon?
Doit être de vendre un poumon?
Je dije, uy, Dios mío, madre mía, qué puede pasar, ¿no?
J'ai pensé,
pero
mon
no,
Dieu,
no he llegado
si on m'avait dit. Mais j'en suis jamais arrivé à la limite de. Je crois que rien n'aurait plus de sens si j'en arrivais à me prostituer. Si je devais me prostituer pour réunir l'argent pour mes études, par exemple, tout perdrait son sens. La dernière chose que tu puisses perdre, c'est ta dignité. Je pense que l'être humain est grand quand il explore son talent, quand il explore ce qu'il est capable de faire pour survivre. Il est capable de faire n'importe quoi.
Bueno, casi todo, no.
Il y a quelques minutes, la police a durement chargé contre un groupe de manifestants qui tentaient d'atteindre le Parlement.
Ça a commencé comment ? Un incident pendant l'enterrement du général Lamarque. Alors la troupe a riposté. Et la tempête s'est déchaînée. Diable, c'est pas rien. Et le peuple ?
Les agents golpean indiscriminadamente.
Les agents frappent à l'aveugle et c'est l'avalanche.
Les manifestants dénoncent le fait que la police a utilisé des infiltrés. Sur ces images, on voit clairement trois policiers en jeans et capuche qui traînent un manifestant jusqu'à un fourgon. Les agents anti-émeutes se sont mis à tirer des balles de gomme. Les images sont très dures, très violentes. Il y a des blessés. On voit des personnes âgées, des familles avec leurs enfants courir pour tenter d'échapper à l'horreur qui règne sur la place. Pendant ce temps, des manifestants s'assoient par terre ou se mettent à genoux.
La violence se solde tard dans la nuit par 64 blessés et 35 arrestations.
Trois jours ont passé. La ville a retrouvé son apparence de calme. En chemin pour le quartier de Chueca, nous croisons des files de gens qui attendent en silence l'ouverture des soupes populaires. Plus loin, un mendiant tient un écriteau où l'on peut lire « pour acheter une Ferrari ». À Chueca, Sarah et moi cherchons à rencontrer des propriétaires et des clients de perruqueries ou boutiques d'accessoires en cheveux. Personne ne souhaite répondre à nos questions, hormis un vendeur d'articles destinés au porno et à la prostitution. Autour de nous, un étalage de perruques et de godemichets, de tenues de collégiennes et de dentelles rouges, de tortures déguisées en liberté sexuelle.
Je vois que tu as des perruques de toutes les couleurs, mais surtout des perruques longues. Qu'est-ce qui se vend le mieux, la longue ou la courte ?
Sur 100 perruques que je vends, 90 sont longues et 10 courtes.
A ver, de las pelucas entre larga y corta, sí que la peluca larga es la que más se vende.
Les longues sont celles qui se vendent le plus parce que les hommes sont plus attirés par les perruques longues. Les perruques longues sollicitent plus l'imaginaire, les images que les courtes. La perruque longue correspond plus au fantasme sexuel des hommes, et surtout la longue frisée avec plus de volume.
Quels sont tes clients ?
Essentiellement des filles qui travaillent dans la rue ou en appartement ou dans l'activité sexuelle. Dans ce monde, elles doivent changer de look. Et le seul moyen, c'est de varier les perruques, pas vrai ?
Pour rentrer, nous traversons la Plaza del Sol. L'immense femme presque nue est toujours là, prisonnière de son panneau publicitaire. Son corps ne fait qu'un avec l'article en vente. C'est donc cela le fantasme des hommes ? Des femmes comme des poupées derrière une vitrine à qui l'on fait dire dans un sourire « Achetez-moi ».
Le Thénardier lui écrivit que, décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallait 100 francs, tout de suite. Sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine. Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortunée se fit fille publique.
Tu prends combien ?
Je sais pas. C'est ma première fois.
Il y a toujours une première fois, mais jamais de dernière fois. Le trottoir, c'est sans fin. Inspecteur Javert de la Sûreté. Si je te revois à faire ça, je t'arrête.
En contrebas du quartier de Chueca, des femmes arpentent le trottoir dans l'attente d'un client. Tout d'abord, aucune ne veut nous parler, puis l'une d'elles nous présente Martha.
Hola, buenos días. Me llamo Martha.
Je m'appelle Martha
et
je travaille dans la prostitution depuis 12 ans.
En
dehors de la prostitution, mon travail est agent immobilier. Je suis tombée au chômage et j'ai commencé à chercher comment m'en sortir. La première chose que j'ai faite, c'est vendre mes cheveux. Je les ai vendus à une prostituée brésilienne qui s'est mise des extensions. Elle me les a coupées très courtes. J'avais les cheveux comme dans Les Misérables.
al rape. He vendido el pelo de mi vagina 4 veces.
J'ai vendu les poils de mon pubis 4 fois. Une fois pour un tableau d'un monsieur qui était sur la Castellana. Ce monsieur était de Soria. Et avec les poils des pubis des prostituées, il a fait un grand tableau. Il les coupait lui-même avec des ciseaux pour tondre les moutons.
Et nous pagavait 20 euros. Pour chaque corte. O sea, cada vez que tal.
Il nous payait 20 euros par coupe.
J'ai vendu le pelo de la vagina.
J'ai vendu les poils de mon vagin.
Una felación cuesta 10
euros. La cama
cuesta 3.
Le lit en coûte 3. Il te reste 7 euros.
O sea, para tomarte un café
pour prendre un café et un sandwich.
C'est la supervivencia. Es la supervivencia.
C'est de la survie.
No es una vida normal.
Ce n'est pas une vie normale.
No la elegimos nadie.
Personne ne l'a choisi.
Si tú tienes hijas,
si tu as des filles,
un hombre tiene hijas,
ou si un homme a des filles,
no creo que desearan
je ne crois pas qu'il voudrait qu'elles se prostituent.
No lo creo.
Je ne crois pas.
Mi cuerpo es una
Mon corps,
mierda.
C'est de la merde qui se vend.
No es otra cosa.
Ce n'est pas autre chose. C'est un objet.
Pues, yo creo que la máxima de dominación
je pense que la forme ultime de domination est la violence de genre
ahí entra.
Qui englobe les femmes maltraitées et les prostituées.
Son dos cosas de
Ce sont deux causes de domination absolue de la femme.
L'autoestima para un
L'autoestime
hombre
pour un homme,
es estar por encima
c'est d'être
de
au-dessus d'une femme.
Si, los hombres
les hommes vont voir des prostituées pour montrer qu'ils sont virils. Devant la société, ils doivent montrer qu'ils dominent le sexe, qu'ils sont le mâle dominant. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui, en plus d'essayer de dominer une femme ou de se soulager en dominant une femme, sont misogynes et détestent les femmes et qu'ils vont voir les prostituées pour leur faire mal. Moi, j'ai été séquestrée pendant 5 mois dans une maison. Une fois, un monsieur a essayé de me donner un coup de poing dans le vagin pour faire rentrer son poing. J'ai dû me défendre. Mais si je ne m'étais pas défendue, ou si j'avais eu un handicap, imagine, ce monsieur m'aurait démoli.
Comment tu fais pour tenir ?
Moi, personnellement, je suis devenue alcoolique. D'autres se droguent, et d'autres, je ne sais pas. Mais personne ne supporte. Je ne me détends jamais. Nous avons les nerfs tendus comme les toreros. Notre corps tremble comme les toreros. Nous ne nous dépendons pas. Nous ne pouvons pas dormir normalement. Nous prenons presque toutes des somnifères. Je n'en connais aucune qui ne prend pas de somnifères pour dormir.
Tu es très fatiguée.
Épuisée. Nous terminons épuisés. Nous sommes des femmes
meurtries.
Et nous passerons à coup sûr la fin de nos jours dans une résidence sans que personne ne nous aime. Oubliées de tous. Et c'est tout.
Soledad y tristeza.
Solitude et tristesse.
Bueno. Pero la libertad de una mujer no es la prostitución.
N'a rien à voir avec la prostitution.
La prostitution
est une obligation qui te fait vendre ton corps contre de l'argent. Ce n'est pas la liberté d'aller à la discothèque et de draguer un ami.
Eso no es.
C'est pas ça, non.
La libertad
la prostitution
de una mujer no es
n'est pas la liberté.
Celles
qui disent ça, elles se mentent à elles-mêmes.
Tout
ce qui a à voir avec la prostitution te ruine psychologiquement pour toute la vie.
Psychologiquement,
tu ne vas jamais être la même. Tu auras toujours ce passé. Et si tu veux refaire ton futur, il y aura toujours cette ombre, comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Je me sentirai toujours...
Nunca
tu ne peux plus jamais te regarder dans un miroir comme avant.
Nunca. Lo siento.
Tu n'as jamais eu d'amant?
Si.
Et il ne t'a rien appris?
Vous n'êtes pas satisfait?
Elle est en fille de joie et à joie. Alors tu pourras au moins faire l'effort de sourire. Décidément, non. C'est mieux quand tu pleures. L'usage, c'est de fixer le tarif avant. Tu n'as pas dit combien tu prenais. Je pourrais en conclure que je ne te dois rien.
Non, je vous en prie. Donnez-moi quelque chose.
Je n'ai que ça. Je te donnerai plus la prochaine fois. Si tu te montres un peu moins gourde, et s'il y a une prochaine fois.
Madrid había sido elegida como la ciudad donde se levantaría el gigantesco megacomplejo de casinos y de hoteles.
Madrid a été choisie pour être la ville où s'élèvera l'énorme complexe de casinos et d'hôtels Eurovegas. Cela veut dire que Madrid a été choisie pour devenir la nouvelle succursale de Las Vegas, comme Singapour ou Macao, après plus de 5 années de négociations entre les gouvernements autonomes et le magnat nord-américain Shelton Adelson, qui est l'un des hommes les plus riches au monde.
Se prevé que este proyecto atraería a unos 5 millones de visitantes extranjeros cada año.
Ce projet devrait attirer plus de 5 millions d'étrangers chaque année, mais pour engager Eurovegas, il est nécessaire d'investir plus de 20 000 millions d'euros, ce qui fait de ce projet l'investissement privé le plus important de l'histoire en Europe.
On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s'appelle prostitution.
C'est ce qui va se passer avec ce type de business. Autour des casinos, évidemment, il y aura de la prostitution. Est-ce que ce sera nouveau?
Non.
En Espagne, pas du tout, il suffit de se promener dans les quartiers portuaires pour s'en rendre compte. Mais pour autant, il ne viendrait à personne l'idée d'interdire les ports.
Avant de quitter Madrid, Sarah tenait à me présenter Ileana qui a répondu à notre annonce. Ileana a quitté le Nicaragua il y a plusieurs années avec ses deux filles. Ses cheveux d'un brun étincelant ondulent jusqu'à la taille.
J'ai répondu à cette annonce parce que j'étais à la recherche d'un emploi. Elle a attiré mon attention parce que je me suis dit, t'as déjà pensé à faire beaucoup de choses, mais vendre tes cheveux. Et je me suis dit, non, je ne veux pas couper mes cheveux ni les vendre. Mais j'ai appelé à cause du sujet de l'annonce. Ça me paraissait intéressant parce que dans ma famille, la tradition veut que les femmes portent des cheveux longs. C'est inhérent à notre culture et à notre identité. Je me suis demandé, mais combien on me donnerait si je coupais mes cheveux? Il faudrait me donner beaucoup en compensation parce que, pour l'instant, je suis préoccupée par le chômage, les emprunts, par une foule de choses que tu ne peux résoudre qu'avec de l'argent. En ce moment, mes dettes s'élèvent à 5 000 euros et... Ça me paraît impossible que quelqu'un veuille dépenser 5 000 euros pour une chevelure.
Pero bueno. Nosotros por...
Dans ma famille,
vamos, de hecho, somos indias todas.
Nous sommes des Indiens.
Conservamos mucho más parte de nuestra
On a conservé beaucoup de nos racines indigènes.
Y tenemos la característica de este pelo fuerte, largo, negro.
Et nous avons la particularité de ces cheveux épais, longs, noirs, dont il faut prendre soin.
Creces entre ese colectivo de hembras que todas tienen el pelo largo.
J'ai grandi parmi des femmes qui toutes avaient les cheveux longs, qui font de l'effet et qui en font la priorité de l'esthétique corporelle.
Cuestión que fue de ella de quien yo recibí.
Je me suis demandé quoi faire de cette idée dont j'ai hérité, que ces femmes sont belles avec des cheveux longs. Je me souviens quand j'ai eu 20 ans, je me suis coupé les cheveux à ras. Parce que j'étais fatiguée et révoltée qu'on me dise que mes cheveux étaient beaux, qu'il ne fallait pas les couper, que c'est ce que j'avais de mieux. Ce commentaire me tuait.
Quoi ?
Ileana n'est rien de plus qu'un tas de cheveux. Merde alors, non, non. Sans moi, mes cheveux ne sont rien et je vais le démontrer. Je suis allée chez le coiffeur et je me suis coupé les cheveux jusque-là. Entre parenthèses, je viens d'une famille qui a porté la lutte sandiniste. Mon oncle, Roger Navarro, est fondateur du Front. Ma mère était combattante clandestine et veuve d'un martyr de la Révolution. Et donc, j'ai grandi en croyant à tout cela, en pensant que ce qui est juste, c'est la liberté, qu'il n'existe pas de droit à l'oppression. Et quand je me suis demandé quoi faire de ma vie, j'ai pris la décision de partir pour l'Espagne. C'était pour moi une manière de vivre ma révolte et d'affirmer mon désaccord. C'est ici que j'ai commencé à être moi. J'étais responsable de mes filles, j'ai formé mon foyer. C'était difficile, mais bon, d'un autre côté, j'avais des facilités. Imagine-toi la sécurité sociale, l'éducation, les moyens de transport qui sont une bénédiction comparée à là-bas. Et disons que finalement, j'ai ressenti ma véritable identité comme Ileana Poveda, ici en Espagne. Et là, j'ai recommencé à laisser pousser mes cheveux.
C'était Pelos, un documentaire de Frédéric Collet-Rouillère, réalisé avec Anna Smuk. Un projet sélectionné dans le cadre de l'appel à projet Du Côté des Ondes, soutenu par la RTBF, la SACD, la SCAM, la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SACD France et la SCAM France. Une coproduction RTBF, par Oui Dire, de Pascal Tison et de France Culture sur les docks d'Irène Omelianenko. Prise de son, Nacho Arenas, Jason Taos, assisté de Déborah Dagoberne et Pierre Ontoire. Mixage, Pierre Devalet. Équipe de réalisation, Sarah Bergassa, Nouria Degno, Eve Etienne, Christine Bernard-Gedge. Musique originale, Nicolas Joriot. Traduction, Agathe Morel-Darleux. Avec Philippe Drake, Sandrine Laroche, Nathalie Cornet, Sabra Benafra, Cécile Poss, Pascal Goffo, François Caudron, Lionel Francard, Didier Mélon, Pierre Ontoire. Merci à Annie Ferrand, Béatrice Boussard et Mariana Colotto.
C'était Pelos, un documentaire de Frédéric Pollet-Rouillère diffusé dans le cadre des écritures du réel. Retrouvez le documentaire en podcast sur le site de La Grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.